Bonjour cher Emmanuel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Orson Welles aime les expérimentations. Il ne conçoit pas son œuvre théâtrale, radiophonique et cinématographique autrement que comme une expérimentation au service du rythme et de la narration. Ce qu'il aime avant tout, ce sont les histoires, les énigmes, les secrets et les personnages qui les portent. Le cinéma, ça ne l'intéresse pas trop, sauf quand c'est lui qui se trouve derrière la caméra. On le présente comme l'un des cinéastes les plus importants de l'histoire du cinéma, ce qui pour lui n'a aucun sens. Écoutez-le, c'était en 1974.
Nous, c'est pas sûr que le cinéma est vraiment important. Vraiment, nous sommes pas dans une position de... We can't judge. So to be important in the cinema, what's that? Nobody knows what that is. C'est pas pour nous de décider ça. Il n'y a pas des hommes importants dans le cinéma, parce que le cinéma, c'est trop jeune. Peut-être c'est déjà trop vieux aussi. C'est un mystère. Je ne sais pas qu'est-ce que nous avons avec cette chose ici. Peut-être c'est très important.
Bon, c'est très important, c'est pas très important, mais c'est quand même très important. Bonjour Benoît Peters.
Bonjour Adèle Van Rijt.
Ça, c'est le Orson Welles qu'on aime ou qu'on déteste, justement, celui qui, quand il parle de quelque chose de sérieux, à savoir le cinéma en tant que cinéaste, bah, dit un peu tout et son contraire, non?
Oui, Welles est un magicien, un illusionniste, il adore le vrai, le faux, et ses interviews sont complètement mises en scène, même si souvent, elles contiennent des choses passionnantes. Se poser la question de l'âge du cinéma, de la durée du cinéma, avant de se demander si on est un cinéaste important, ce n'est pas que de la fausse modestie. Pour lui qui a grandi avec le théâtre, qui a Shakespeare toujours derrière lui, qui a un immense amour de la littérature, de Montaigne par exemple, avoir ce rapport un peu détaché au cinéma, c'est quelque chose. Mais c'est tout lui, c'est-à-dire que c'est à la fois tout le problème de Welles. Cinéaste génial, prodigieux, inventif, acteur parfois extraordinaire, parfois un peu encombrant, allant faire des apparitions dans des films pour payer ses propres films parce qu'il n'arrive plus à les monter financièrement, pouvant se compromettre dans des aventures douteuses parce que sa carrière n'est pas ce qu'elle devrait être. Tout cela, quelquefois, cache un peu le grand Welles, le grand Orson Welles. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la mythologie Welles, l'acteur Welles, quelquefois, prennent trop de place, nous le dissimulent avec ses faux nez, avec sa voix inoubliable, jusque dans cette chanson enregistrée tardivement, qui n'est pas une page extraordinaire de l'histoire de la chanson. Tout ça pourrait nous faire oublier le réalisateur de Citizen Kane, de La Splendeur des âmes personnes, du procès.
Et de la soif du mal dont on va parler aujourd'hui. Alors Benoît Peters, vous êtes venu il n'y a pas si longtemps à ce micro nous parler de Derrida. Vous êtes également l'auteur d'une biographie de Hergé. Enfin, vous connaissez très bien Hergé aussi. Vous êtes professeur à l'Université de Lancaster. Vous êtes auteur de bandes dessinées. Et on vous découvre aujourd'hui passionné ou fasciné par Orson Welles.
Beaucoup d'amoureux du cinéma sont fascinés par Welles. Je le suis depuis l'adolescence. Et vous citiez la bande dessinée. On n'en est pas si loin. Ouais. Avant Citizen Kane, Welles a correspondu avec Milton Caniff, l'auteur de Terry et les Pirates, un des auteurs les plus inventifs sur le plan des cadrages dans l'histoire de la bande dessinée, un des maîtres du noir et blanc. Welles a beaucoup eu recours au storyboard quand il préparait ses films. La profondeur de champ telle qu'on la voit dans ses films et qui est une de ses marques de fabrique est aussi très très liée au monde du dessin. Au fond, il y a un croisement chez lui entre un univers littéraire, un univers théâtral, cet univers plastique qui emprunterait plus au dessin, et puis quelque chose, malgré tout, de profondément cinématographique. Mais ce n'est pas un cinéaste pur. Il dit parfois de lui-même qu'il est « bigger than life », plus grand que la vie, et son cinéma, quelquefois, est peut-être « bigger than cinema », c'est-à-dire voulant tout incorporer.
On va commencer par la fin, en fait, 1958. Voici le début, scène d'ouverture mythique de La Soif du Mal. Écoutez, et on vous expliquera ensuite parce que le plus important se trouve à l'image. Tendez l'oreille.
Thank you. American citizens?
I am, yes.
Where were you born, miss?
Mrs.
What?
Philadelphia.
The name is Vargas.
Hey, Jim, you see who's here?
Sure, Mr. Vargas. A lot of talk up here about how you cracked that Grandy business.
Yeah, what? We hear you caught the big boss.
Only one of them. The Grandys are a big family. Good night.
No purchases, Mr. Lineker.
Hey, I've got this...
You're American citizen, miss.
No, I got this ticking noise.
Yeah, okay.
No, really, this
good
ticking
night.
Noise in my head.
Mike, do you realize this is the very first time we've been together in my country?
Do you realize I haven't kissed you in over an hour?
Et vous venez d'entendre pour la première fois, sans doute à la radio, le plus long plan séquence de l'histoire du cinéma, Benoît Pathard, ce qui est donc la scène d'ouverture de La Soif du Mal. C'est fascinant de l'entendre et non pas de le regarder, ce plan séquence, parce qu'on voit que le travail du son tranche complètement avec ce qu'on voit à l'écran.
Alors ce qu'on voit à l'écran, c'est un mouvement de grue absolument extraordinaire.
On voit pas la grue.
Non, c'est un mouvement à la grue,
c'est-à-dire
qu'on démarre par un plan assez serré de mains qui pose une charge de dynamite, mais ça se voit à peine parce qu'on est déjà pris dans le mouvement. On est à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, on suit un couple de jeunes mariés, Charlton Heston et Janet Leigh, qui vont être des personnages clés de la suite, qui sont dans un moment d'insouciance, un moment hors travail. Pendant ce temps-là, on suit une autre voiture qui s'apprête à passer la frontière. Quelle belle idée de faire un plan séquence, un plan ininterrompu au moment où l'on passe une frontière. Il faut dire qu'à l'époque, c'est une frontière ouverte. Et donc, passant d'un élément à l'autre, entendant la musique, des boîtes de nuit, des cabarets, des passants, parce qu'il y a toute une foule, on sent que c'est un soir d'été, il y a beaucoup de monde, on oublie ce qu'on aurait dû noter au début, c'est-à-dire la charge de dynamite, et elle nous rattrape juste au moment où ils sont en train de parler d'amour, parler romance, où il dit « ça fait une heure que je ne t'ai pas embrassé », et là, la voiture explose, elle est déchiquetée absolument, et donc le personnage de Charlton Heston, Vargas, qui est un personnage important de la police mexicaine dans cette zone frontière de trafic, va se trouver rappelé par le travail instantanément et se demander que faire de sa femme. C'est très rapidement le sujet qui devient le cœur du propos, c'est-à-dire il devait montrer le Mexique, faire découvrir le Mexique à sa femme. Il se trouve pris par le travail et les deux personnages vont vivre chacun une aventure différente. Cependant que Vargas rencontre un personnage extraordinaire, la gloire locale de la police, joué par Orson Welles méconnaissable, qui
Orson Welles obèse.
Bouffie incroyable. Il ne faut pas oublier que Orson Welles a à peine plus de 40 ans quand il joue ce rôle, qui est un vrai rôle de composition. Et donc, toute la suite du film est aussi la confrontation entre ces deux conceptions de l'ordre, les deux conceptions du métier de flic, celle de Vargas, le Mexicain, et celle d'Orson Welles, l'Américain.
Ce Quinlan est l'occasion pour Welles de faire preuve encore de ses talents d'acteur, mais il réalise aussi le film, c'est-à-dire que dans ce film, Welles est des deux côtés de la caméra.
Welles est très souvent des deux côtés de la caméra. Il ne faut pas oublier que dans les très très grands films de Welles, Citizen Kane, Le Procès un peu moins, Mr. Arcasi superlativement, Welles a un rôle majeur. Et quelquefois, on a tendance à identifier le point de vue du réalisateur qu'il est, avec le personnage qu'il incarne. Or, on verra, et je crois que c'est une des choses passionnantes dans son cinéma, une des choses passionnantes dans La Soif du Mal, qu'il y a comme une distance entre le Welles qui écrit, qui adapte, qui met en scène, et le Welles qui interprète. Et cette dialectique de l'acteur et du réalisateur est une chose très, très, très étrange et très consubstantielle au cinéma de Welles. Autant on peut dire que quelquefois, dans les apparitions un peu commerciales qu'il fait à gauche et à droite, il est un peu cabot, autant dans ses propres films, il est vraiment une part intégrante de la réalisation. On ne peut pas imaginer La Soif du Mal sans Welles dans le rôle de Hank Quinlan.
Dès le titre La Soif du Mal, on sait à peu près de quoi il va être question. Et pourtant, la réalisation de ce programme est beaucoup plus subtile qu'il n'y paraît. C'est pas simplement s'interroger sur les motifs qui peuvent conduire à commettre le mal. C'est aussi incarné par Quinlan d'un côté, Vargas de l'autre, deux conceptions opposées de la loi et de la justice.
Tout à fait. Alors c'est A Touch of Evil. Donc la soif n'est pas exactement le thème. S'agit-il de la caresse du mal, d'une partie de mal, de quelque chose du mal qui est là partout autour de nous? Parce que bien sûr, quand on connaît le film et quand on l'a vu, c'est surtout la fin et le destin terrible du personnage de Hank Quinlan et ce qu'on va découvrir de ses manœuvres, de sa nature plus que corrompu, enfin il est bien au-delà de la corruption. Mais si on revoit le film comme je l'ai fait ces derniers jours, comme sans doute vous l'avez fait, on est frappé par le fait que le mal est partout, absolument partout. Il est d'abord dans ce monde complètement inquiétant de cette ville frontière, il est dans la relation perverse qui peut exister entre le meurtrier supposé, celui qui a placé la bombe, et les flics tout autour de lui. Mais il est aussi dans le motel où va se trouver Suzanne Vargas, la femme de Vargas jouée par Janet Leigh, qui est entourée de créatures plus inquiétantes les unes que les autres. On est 2 ans avant Psychose de Hitchcock, mais on a vraiment l'impression par moment que c'est une préparation de Exactement, Psychose qu'on voit ouais. là. C'est absolument terrifiant, cette pauvre femme qui est dans cette chambre sans rideau, seule cliente dans ce motel absolument perdu. Le mal est là. Et peut-être le mal est-il aussi chez l'incorruptible Vargas qui, pour mener à bien son enquête, abandonne sa jeune épouse dans un univers hostile et semble par moments l'avoir quasi oublié.
Oui, c'est ça. Le couple qui pourtant ouvre le film est quasiment sacrifié. Et d'ailleurs, c'est sans doute un des sujets secondaires du film, savoir comment concilier cette trame narrative purement sentimentale hein, avec l'autre trame narrative qui la supplante entièrement, qui est ce rapport au mal, cette façon de savoir est-ce qu'une enquête peut être menée à bien en ce qui concerne la question du mal qui est commis.
Alors tout ça est beaucoup plus apparent dans la Director's Cut qu'on trouve maintenant, qui est la version qui, depuis 98, nous permet de voir à peu près le film comme Wells l'a imaginé, alors que la version de 58 était une version absolument mutilée. Une des choses que le monteur a rétabli, le grand monteur, un des plus grands monteurs du cinéma américain, monteur de Coppola notamment, Walter Murch, c'est l'alternance assez stricte des points de vue de l'homme et de la femme. C'est une chose qui, dans le mémo que Wells avait laissé au studio, lui apparaissait comme très très importante. Les deux histoires comptent autant l'une que l'autre et, disait Wells, il faut absolument que les séquences soient à peu près de même longueur. Donc, dans l'ancienne version, l'intrigue policière prenait le pas, l'intrigue de couple était évacuée. Du coup, Vargas avait l'air d'être beaucoup plus pur, plus moral, plus solide que dans la version actuelle où cet abandon peut nous apparaître comme un vrai problème. Et ce qui est très très beau, c'est ce pourquoi je crois que le thème de l'opacité du mal convient bien pour analyser ce film, c'est parce que les sentiments entre les personnages et la manière dont nous considérons leurs actions sont constamment troublants. Par exemple, il y a chez ce personnage, à bien des côtés, d'abord physiquement monstrueux de Hank Quinlan, le personnage interprété par Wells, boitant, obèse, au visage déformé, ancien alcoolique, grossier, etc. Il y a chez lui des moments d'extrême fragilité et d'extrême beauté. Dans son amitié avec son second, Menzies, qui se dévoue pour lui et dont on apprend que, en fait, le personnage de Quinlan a pris une balle pour le protéger lui, pour protéger son assistant, et que c'est suite à cela qu'il boite. On apprend aussi que le personnage de Quinlan a eu sa femme étranglée par un malfrat et que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à boire. Et toutes sortes d'éléments de son apparente monstruosité peu à peu prennent une autre couleur, notamment à travers le regard qui est porté par ce personnage très très beau et qui jouera un rôle tragique dans la fin, qui est le personnage le plus tragique de l'histoire. Menzies, donc cet ami, celui qui lui est tout dévoué, celui qui suit Quinlan comme son ombre, celui qui va finir par le trahir, mais qui lui voue une admiration par-delà tout. Et là, on se dit, par exemple, ce thème de la trahison, c'est un des grands thèmes de Wells. C'est un des thèmes les plus profonds qu'il y a chez lui. Trahir une amitié, c'est d'une certaine façon pire que commettre le mal. C'est un thème qui est déjà dans Le Troisième Homme. C'est un thème qui est dans Citizen Kane. C'est peut-être cette idée de la loyauté dans l'amitié, par-delà le désastre, c'est peut-être un des plus beaux thèmes d'Orson Welles, c'est un des plus cachés. Pendant longtemps, et moi-même, quand je regardais Welles autrefois, j'étais séduit par la virtuosité, l'expérimentation, le brio, les profondeurs de champ, les plans séquences, enfin, tout ce dont on parle. Et puis un jour, bon, c'est peut-être l'effet de l'âge aussi, en voyant les films, mais on se dit, mais quand même, il nous raconte des choses.
C'est ça, mais lui-même détestait qu'on le réduise à des aspects
techniques. Il n'est pas qu'un réalisateur brillant, c'est quelqu'un qui a vraiment hérité de son admiration pour Shakespeare et qui vraiment nous raconte des histoires d'une extrême intensité,
et
d'une extrême profondeur.
Il a quelque chose à nous dire. Il a une vraie vision du monde qui s'exprime. Peut-être que même que l'aspect technique, on parlait de ce plan séquence bluffant qui ouvre la soif du mal, peut-être que cet aspect technique n'est qu'au service du fond, parce que finalement un plan séquence de cette ampleur-là, qu'est-ce que c'est sinon une manière de prendre le spectateur par la main et de lui dire c'est toi qui vas juger par toi-même, c'est pas moi qui vais te dire ce qu'il se passe. Et en matière de morale, c'est très intéressant.
Regarde, parce que si nous avions regardé, nous ne serions pas laissés distraire, nous aurions vu la dynamite, nous aurions été moins surpris par l'explosion. Peut-être que si nous avions suivi bien le couple dans son dialogue, nous aurions senti aussi les malentendus qui pouvaient s'installer entre cette américaine et ce Mexicain qui incarne la loi morale et le respect de la démocratie par rapport à un Américain qui, lui, ne cesse de la bafouer. On passe d'un côté à l'autre de la frontière. Le bien, le mal, déjà, de ce point de vue-là, sont complètement troublés. Et donc, oui, je crois qu'un film comme La soif du mal, mais un film comme Mr. Arcadine, un film comme La splendeur des âmes personnes, méritent vraiment d'être entendus et compris comme des histoires très profonde, avec des personnages extrêmement riches, nourris et ambigus, et pas simplement comme un tour de force cinématographique ou une variation de plus sur le film noir.
On va suivre l'histoire avec vous, Benoît Peters. Voici un extrait un peu plus loin dans le film de la rencontre entre Hank Quinlan, donc interprété par Orson Welles, qui est une espèce de... On peut le comparer à Marlon Brando dans Apocalypse Now, hein, c'est cet acteur devenu vraiment énorme. Et Tanya, interprétée par Marlène Dietrich, une rencontre bouleversante. Et là aussi, on s'attend à voir un salaud pur et dur, et on se rend compte que, bon, bah, il a un cœur tendre, évidemment, comme beaucoup de salauds. Et cet échange, hein, où il lui dit, mais elle lui dit, mais ça fait trop d'années qu'on ne s'est pas vu. Il dit, mais moi, j'ai mangé trop de bonbons. Cet échange quasiment enfantin va sceller un type de relation qu'on ne s'attend pas à voir naître sous nos yeux. Écoutez.
What happened to Mendes and Vargas?
I don't know. He'll show up.
There may be some more questions.
Pianola.
Hey! We go this way, you know.
Turner still open for business?
We're closed.
Have you forgotten your old friend?
I told you we were closed.
I'm Hank Quinlan.
I didn't recognize you. You should lay off those candy bars.
Faut choisir les sucreries ou l'alcool. J'aurais préféré m'engraisser avec ton délicieux chili. Tu es toujours radieuse.
Ce n'est pas ton cas.
Je sais. Ce piano, ça me rappelle des tas de souvenirs.
Oui, ça plaît aux clients. Ils adorent les vieux trucs. Mais j'ai aussi une télévision. On voit de bons films. Pourquoi es-tu venu ?
T'aurais pas entendu parler de cette bombe.
C'est de votre côté qu'elle a explosé.
Il y a du passage chez toi. On entend des choses.
J'ai entendu une explosion.
D'accord. Quand j'aurai réglé mon affaire, je repasserai te voir. J'aimerais regoûter ton chili.
Fais attention à toi, si tu espères me revoir.
Dans cette scène, Benoît Peters, il passe le relais au personnage. Finalement, il se doute bien qu'elle ne va pas lui apporter grand-chose pour mener son enquête à bien. En revanche, on change de manière de filmer, c'est-à-dire que là, on a un plan très serré sur le visage de Tanya, sur le visage de Marlène Dietrich. On entend sa voix, on entend quand même dialoguer Orson Welles avec cette voix profonde, caverneuse, quasiment monstrueuse elle aussi, et celle de Marlène Dietrich tout en délicatesse et un peu rauque aussi par la cigarette, que on l'entend fumer d'ailleurs, elle a même juste avec le son. Et on sent ici que c'est quand même un moment un peu suspendu qui est tout aussi important pour Welles que le reste de l'histoire.
Oui. C'est une scène essentielle, c'est le moment où le personnage de Welles commence à acquérir un passé, à s'humaniser légèrement, où on sent que les sucreries ont remplacé l'alcool, les sucreries ont remplacé le chili, le pianola est la plonger dans la possibilité d'avoir eu un autre Hank Quinlan. Et il suffit de se souvenir de la splendeur de Wells jeune pour voir tout d'un coup le jeune homme de Citizen Kane, ou même le jeune homme du troisième homme, pour sentir ce qu'il y a derrière. Moi, je pensais, en revoyant cette scène l'autre jour, c'est pour moi une des plus belles scènes de l'histoire du cinéma, je pensais à un événement récent qui s'est d'ailleurs passé en partie ici même, à la Maison de la Radio, c'est Depardieu chantant Barbara. On a le sentiment que le corps lourd et massif de Depardieu ne pourra pas faire ça. Et tout d'un coup, on le voit monter dans les aigus, habiter ses chansons de femme et trouver comme son corps glorieux à travers sa voix, atteindre une autre dimension de lui-même par une ingénuité qui fait tout pardonner. Et je dis, voilà, c'est là qu'on est, c'est-à-dire le contre-emploi absolu et la justesse absolue. Ce n'est pas pour rien, on l'entendra tout à l'heure, que Marlène Dietrich a le mot de la fin dans cette histoire. Elle est celle qu'il a le mieux connue, elle est celle qui va parvenir à porter sur lui un jugement par-delà le bien et le mal.
On est vraiment par-delà le bien et le mal.
Ah oui, c'est le point fondamental du film. Et la beauté de la chose, c'est que Wells, réalisateur, pense profondément que Quinlan est un fasciste, que Quinlan abuse de la loi, fabrique des preuves, triche, enfin, fait tout ce qu'on ne peut absolument pas faire éthiquement. Mais en même temps, il habite le corps de Quinlan avec une telle vérité et une telle force qu'il nous fait l'aimer. Et ça, c'est vraiment
alors
une des beautés.
Alors qu'il le déteste lui-même,
hein,
il le dit. Hein, il le dit, il n'a aucune sympathie pour Quinlan.
Il n'a aucune sympathie officielle, mais en tant qu'acteur, il l'a véritablement investi, il s'est coulé en lui, et nous, en tant que spectateurs, nous sommes comme déchirés. Et là, on est vraiment dans la beauté morale du film. On est déchirés entre le discours qui serait porté par le film, c'est-à-dire ce flic est une ordure, c'est le ripoux des ripoux. Il fabrique des preuves pour faire condamner des innocents, même si on verra que les innocents ne le sont
il
pas
avait,
forcément,
pas
que la fabrication
que
des preuves peut là aussi se retourner. Mais par-delà ça, on sent tout d'un coup l'ensemble de ce qu'il a construit, l'ensemble de ce qu'il a fait être comme tel et qui peut nous faire percevoir l'humanité en lui tout d'un coup et brusquement. Et c'est là où, quand même, par rapport à énormément de productions hollywoodiennes de cette époque, le film est neuf et puissant. C'est là aussi qu'on comprend que les studios hollywoodiens les détestaient au point de le faire remonter, au point de refuser une sortie officielle sur le territoire américain. Le film n'est absolument pas sorti. Il a eu un succès en Europe, pas du tout aux États-Unis. Wells n'a plus jamais pu tourner à Hollywood. Non pas parce qu'il n'était pas commercial, non pas parce qu'il avait dépassé le budget, mais parce que je crois que cette noirceur répandue partout dans le film et cette ambiguïté morale jamais levée sur un flic qui est quand même aussi le représentant de l'Amérique contre un Mexique qui serait supposé moins civilisé ou moins moral, ce retournement des valeurs a profondément horrifié et c'est une grandeur de Wells que d'avoir osé ça au péril de sa carrière.
Les personnages que j'ai joués et dont nous parlons sont des formes variées de Faust. Et je suis contre tous les Faust. Parce que je crois qu'il est impossible à un homme d'être grand, à moins d'admettre qu'il y a quelque chose de plus grand que lui. Ce peut être la loi, ce peut être Dieu, ce peut être l'art, ou n'importe quelle conception. Mais cela doit être plus grand que l'homme. J'ai interprété toute une lignée d'égotistes. Et je déteste l'égotisme, celui de la Renaissance, celui de Faust, celui de tous les égotismes. Mais un acteur est amoureux du rôle qu'il joue. Il est comme un homme qui embrasse une femme et lui donne quelque chose de lui-même. Un acteur n'est pas l'avocat du diable, il est un amant, l'amant de quelqu'un d'un autre sexe. Et Faust, pour moi, est comme un autre sexe. Selon moi, il y a deux grands types d'humanité dans le monde, et l'un d'eux est Faust. Moi, j'appartiens à l'autre camp, mais jouant Faust, je veux être juste et loyal envers lui, et donner le meilleur de moi-même et les meilleurs arguments que je puisse trouver parce que nous vivons dans un monde qui a été fait par Faust. Notre monde est faustien. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons d'Orson Welles cette semaine et aujourd'hui en compagnie de Benoît Peters, nous évoquons La soif du mal, 1958. Je viens de lire un extrait des entretiens qu'Orson Welles a accordé à André Bazin. Et l'extrait que j'ai lu est particulièrement significatif, déjà parce qu'il nous renseigne sur la vision du monde. On disait qu'il en avait une, de Welles, qui est très claire, là, pour le coup. Il déteste les Faustes, il est contre tous les Faustes, et pourtant notre monde est faustien. Et aussi, il nous renseigne sur l'intérêt qu'il porte au jeu. Il tient à jouer ces salauds-là, et il tient à les jouer de manière juste et loyale, dit-il. Et on a ici un degré supplémentaire. C'est non seulement l'art est plus important que la morale, et le jeu serait presque plus important que l'art, en fait.
En tout cas, il y a une éthique du jeu.
Ouais.
Et quand on se met au service d'un personnage qu'on n'aime pas, on lui donne toute sa chance, avec tous les risques que cela comporte. Et le risque porte un nom, dans le cas d'Orson Welles, le risque c'est Harry Lime, le héros du troisième homme. Le troisième homme qui peut apparaître par certains côtés comme une première version de La soif du mal, même si c'est un film de Carol Reed, d'après Graham Greene.
1949.
Oui, un film de 10 ans avant, tourné dans les ruines de Vienne, on se souvient du thème de Sitar, enfin bon, voilà, c'est les images qu'on associe. Mais surtout, il faut se souvenir que Le troisième homme, c'est un film où Welles joue 10 ou 12 minutes, et où on parle de lui sans cesse. On a un personnage, un écrivaillon qui arrive à Vienne parce que son vieil ami Harry Lime lui a dit qu'il lui trouverait peut-être un boulot. Et quand il arrive à Vienne, il apprend la mort de son ami, on va l'enterrer, il est à l'enterrement, il est là, perdu dans Vienne, sans argent, sans rien. La mort de Harry Lime semble un peu suspecte, il remonte peu à peu l'enquête, et c'est presque au bout d'une heure de film qu'on voit enfin celui dont on n'a pas cessé d'entendre parler, le troisième homme, Welles qui avait faim sa mort, qui apparaît dans l'embrasure d'une porte, parce que le petit chat de sa compagne l'adorait. Voilà déjà l'ambiguïté. Ouais. Le personnage qui va être l'abomination, qui est un trafiquant de pédicilline corrompu, enfin qui est vraiment un personnage abject dans cette Vienne complètement ruinée et appauvrie, responsable de la mort de dizaines de gosses, enfin vraiment le personnage le plus chargé, on le voit là apparaître avec un sourire et tenter de renouer ce qui peut l'être de cette amitié avec Holly Martins, cet écrivaillon joué par Joseph Cotten. C'est extraordinaire d'abord parce que bon, le personnage de Cotten, c'est Holly Martins. On va se moquer de lui. C'est
Holly donc, qui veut dire saint.
Holly saint. Et donc, il va y avoir une espèce de fausse vertu dont on verra tout au long du film que profondément, la vertu de Cotten ne tient pas à grand-chose et qu'il serait prêt finalement à trahir à peu près tout le monde pour partir avec l'ex-amante de Harry Lime, joué par Alida Valli. Donc, moralité qui bascule, mais mythe qui se construit autour du personnage de Harry Lime, associé au thème de Sitar. Le seul personnage, dit-il, qu'il a joué sans fauner, le seul personnage qu'il a joué en étant tel qu'il est, et qui s'imprimera dans la tête de tous les spectateurs du monde, parce que Le troisième homme est un film qui aura un immense, immense succès, comme étant Welles, comme étant la référence, c'est-à-dire ce séducteur maléfique. Ce personnage faustien, abominable, mais qui en même temps arrivera à mettre tous les rieurs de son côté dans la fameuse séquence de la Grande Roue où il dira l'Italie à la Renaissance a eu les Borgia, le massacre, etc. Mais c'est Raphaël, Michel-Ange, Léonard de Vinci et la Suisse en 4 siècles de paix, pardon, pour les Suisses, a produit le coucou. Et donc évidemment, nous sommes tous à ce moment-là, du côté des forces obscures qui ont pu produire la beauté, du côté des Borgia et de Léonard de Vinci. Et cette ambiguïté-là, je dirais qu'elle va accompagner Welles dans chacun de ses rôles, dans chacun de ses films, tellement il a donné la générosité de jeu à Harry Lime et tellement il a su aussi rendre... Oui, la beauté du diable.
Ah oui, donc pour vous, le personnage de Quinlan se comprend en partie par le personnage du troisième homme.
Tout à fait, parce que le personnage du troisième homme a été entièrement réécrit par Welles. Bien sûr, il y avait des points de départ dans le scénario de Graham Greene et la réalisation de Carol Reed, mais Welles dit avoir réécrit ses dialogues et mis en scène ses propres apparitions. C'est un rôle évidemment extraordinaire pour un acteur, puisque c'est celui que tout le monde attend, c'est celui dont on n'arrête pas de parler, c'est celui qui va apparaître dans le clair-obscur et se détacher dans la beauté qui était celle de Welles à ce moment-là. Et donc, par rapport à cette image un peu lourde, il vient la salir, la reprendre et la complexifier dans La soif du mal, que je vois en partie, oui, comme une relecture. Mais Wells n'arrête pas de se relire de ce point de vue-là, parce que la puissance de Grégory Arcadine dans Mister Arcadine, qui est un autre chef-d'œuvre, c'est aussi la manière de montrer un roi. Wells dit, il y a des acteurs faits pour jouer les rois, c'est comme ça, je dois jouer les rois, c'est mon destin. Mais il joue ce roi au bord de la déchéance, ce roi qui aura tout dominé, qui aura tué sans le moindre scrupule tous ses anciens amis et qui finira par craquer à cause de l'idée que sa fille chérie pourrait se faire de lui. Donc lui qui fait trembler tout le monde va retrouver son point de fragilité qui est l'image qu'il laisse à sa fille qui croyait que son passé avait peut-être été trouble mais pas aussi odieux. Donc voilà les images avec lesquelles Wells n'arrête pas de jouer, qu'on retrouvera aussi dans L'avocat véreux, du corrompu, procès. Abominable du procès.
De Kafka.
On a reproché parfois au procès, que je trouve un film absolument superbe, sublime, tourné en partie dans l'ancienne gare d'Orsay, hein, bien avant qu'elle ne devienne musée, au moment où elle était menacée de destruction. On a reproché parfois à ce film de ne pas être tout à fait Kafka. C'est vrai que c'est Kafka relu à travers Shakespeare, c'est Kafka relu à travers Wells, mais c'est absolument magnifique comme liberté interprétative et comme hommage, et se réserver le rôle de l'avocat parce que, disait-il, il n'avait trouvé personne qui veuille le jouer. C'était qu'une fois encore revenir là-dessus. Un avocat ou un juge ou un roi déchu, tout ça, ce sont des figures que Wells aime peut-être autant qu'il les détestait. Au fond, je disais l'opacité du mal, mais c'est cette fascination, et que Wells nous montre la grandeur du mal, l'abîme faustien, comme il le disait dans la citation que vous avez lue.
Cette citation dit tout en réalité, le point commun entre tous les personnages interprétés par Wells que vous venez d'évoquer, puisqu'il dit qu'en fait il faut que quelque chose dépasse l'homme, que ce soit Dieu, que ce soit l'art, que ce soit la loi, peu importe, il faut que quelque chose le dépasse. Si rien ne le dépasse, alors l'homme commet le mal. Donc d'un côté, il y a sa vision du monde assez théorique dont il semble absolument convaincu, et de l'autre, les personnages qu'il interprète, qui en fait appartiennent à la deuxième catégorie, à ceux qui ne croient en rien. Donc on a à la fois une position théorique et le plaisir de jouer l'inverse. On est ici déjà dans une forme d'autocontradiction qui est proprement poétique.
Oui. Alors on avait la morale du cinéma hollywoodien, on a l'éthique que certains peuvent tenter de se forger, et ici on bascule très clairement, et on le voit très très bien à la fin de La soif du mal comme à la fin du Troisième homme, on bascule dans une dimension métaphysique. C'est-à-dire que ce n'est plus un mauvais, ce n'est plus un méchant, comme Hitchcock a su si bien les inventer, comme le cinéma classique a su si bien les inventer. C'est le mal en personne, c'est la fascination pour la noirceur et presque la fascination que le personnage a lui-même pour sa propre noirceur. Vous avez dans le Troisième homme en permanence ce sourire de Harry Lime qui essaye d'entraîner avec lui le naïf Holly Martins, le naïf Joseph Cotten, et de l'emmener du côté du mal. Et il est, il faut bien le dire, plus épais, plus consistant, plus intelligent, plus séduisant que ne le sont souvent les comparses. Quand on sait en même temps que, par exemple, Joseph Cotten a fait quelques tours de cochon à Wells, acceptant de remonter un de ses films en son absence, etc., on sent que tous ces thèmes-là, tu es le bon, tu es installé dans la position du bon, tu as le beau rôle. Mais regardons d'un peu plus près, tous ces thèmes-là nous racontent quelque chose de très profond sur la noirceur fondamentale de la vision du monde de Wells.
Écoutons cet extrait resté célèbre du Troisième homme, donc je rappelle, réalisé par Carol Reed en 1949 avec un scénario de Graham Greene, Alexander Korda, Carol Reed lui-même et Orson Welles en partie. Il faut savoir que là, on est dans la deuxième moitié du film. On a passé tout le film aux côtés de Holly, donc interprété par Joseph Cotten, à chercher qui était le troisième homme qui manquait, qui aurait assisté à l'accident qui avait tué son ami. Il découvre que son ami est sans doute encore vivant. Il va le rencontrer. Celui-ci, donc interprété par Orson Welles, lui donne rendez-vous au pied d'une grande roue. La grande roue, comme on peut en trouver dans les foires encore aujourd'hui. Et toute la discussion que vous allez entendre se passe pendant que la roue fait des tours autour d'elle-même.
Hello, old man. How are you?
Hello, Harry.
Well, they seem to be giving you quite some busy time.
Now listen.
Yes?
I want to talk to you.
Talk to me? Of course. Come on.
kids used to ride this thing a lot in the old days, but they haven't the money now, poor devil.
Zwei Stück?
Geht in Ordnung.
Oh, vielen Dank.
But listen, Harry, I didn't believe it.
It's good to see you, Harley.
Was that your funeral?
It was pretty smart, wasn't it?
Est-ce que tu as jamais vu une de tes victimes? Tu sais, on n'est jamais très à son aise dans ces cas-là. Victime. C'est du mélodrame, Johnny. Regarde en bas. Est-ce que ça te remplirait de pitié si un de ces petits points s'arrêtait de remuer? Si je t'offrais une grosse somme pour chacune de ces vies, songerais-tu seulement à faire du sentiment et ne prendrais-tu pas mon argent avec joie? Je crois que tu regretterais plutôt celle que tu serais forcé d'épargner. Vois-tu, vu, on ne paie pas d'impôts sur cet argent-là. Pas d'impôts. C'est la seule façon d'économiser de nos jours.
Quand tu seras en prison, à quoi ça te servira?
La prison est dans une autre zone. Il n'y a aucune preuve contre moi.
Tu croyais pourtant en Dieu.
Qu'est-ce qui te laisse supposer que je n'y crois plus? Je t'affirme que j'y crois toujours. Le bon Dieu, le ciel, la rédemption. Vois-tu, ceux qui sont morts ont de la chance. Ils n'ont plus le moindre souci, les pauvres diables. N'aie pas l'air si accablé. Au fond, tout ça n'a rien d'affreux. Tu sais ce qu'un écrivain a dit un jour? En Italie, durant 30 ans, ils ont eu les Borgia, la guerre civile et la terreur. On vous tuait pour un rien, mais ils ont produit Michel-Ange, Léonard de Vinci et la Renaissance. Tandis qu'en Suisse, ils ont pratiqué la fraternité. Ils ont connu durant 500 ans la démocratie et la paix, et ils ont produit une pendulette qui fait coucou. Au revoir, Johnny.
Un mot sur la musique quand même, Benoît Peters, qui reste dans la tête toute la journée une fois qu'on l'a entendu et qui est resté célèbre. Hein. On connaît cet air sans savoir que c'est forcément la musique du Troisième Homme composée par Anton Karas. Elle semble trancher avec l'histoire qu'on est en train de regarder, cette espèce de légèreté, les cordes.
Oui, c'est le leitmotiv qui traverse tous les films. Wells croit beaucoup à ce système-là, Deleuze parlait de ritournelle, c'est quelque chose de très efficace puisque la musique se colore à chaque fois différemment. Dans le procès, ce sera l'Adagio d'Albinoni qui va contribuer à remettre à l'honneur, qui va faire aussi une sorte de ritournelle. Oui, c'est le contrepoint en même temps, mais il y a un autre contrepoint par rapport à cette scène qu'on vient d'entendre, contrepoint visuel, c'est qu'on sent tout au long de la scène la puissance physique de Harry Lime, Orson Welles, qui ouvre la porte de la cabine de la grande roue du Prater et est prêt à précipiter son ami dans le vide jusqu'au moment où il comprend qu'en fait d'autres sont au courant qu'il est encore vivant, qu'il est revenu du royaume des morts, parce qu'on l'a quand même là comme déterré. Et donc à ce moment-là, la menace physique directe cesse. Mais on a ce ton extraordinaire, ce côté un peu guiret, forain de la musique. On a ce jeu souriant de Wells, et c'est tout le temps là sur son visage, cette douceur, cette amitié qu'il essaye de ressusciter, et puis l'horreur du fait que d'un instant à l'autre, pour un mot de trop, il ficherait Holly Martins dans le vide, devenant un de ces petits points sans importance.
Ça ne changerait rien si on les exterminait.
Voilà, et ça, c'est vraiment un art du contrepoint qui fait que lire un film, comprendre un film, parler d'un film, ce n'est pas parler que de son scénario, ce n'est pas parler que des acteurs ou que des mouvements de la caméra, c'est sentir la manière dont toutes ces informations s'entrelacent. Je regardais l'autre jour sur Internet un petit documentaire sur le remontage de La Soif du Mal, où le monteur Walter Murch montrait comment un simple regard retiré sur le personnage de Menzies, l'assistant de Quinlan, dans La Soif du Mal, modifiait toute la signification de la scène. Le fait de ne plus s'arrêter sur lui, tout d'un coup, le faisait passer à la trappe, alors que lui laissait le dernier regard sur Hank Quinlan qui s'éloigne. C'était, d'une certaine façon, redonner tout son poids à celui qui venait de trahir son ami. Et donc, un art comme celui de Wells suppose non seulement d'être là au moment du scénario, de choisir les acteurs, de choisir les décors, mais aussi de maîtriser le film dans les moindres détails de son montage, dans les moindres détails de son mixage. Or, c'est ce qu'Hollywood a un moment totalement interdit à Wells, et on l'a cassé, on a fait de lui, il disait, un maverick, un errant, une ombre errante du cinéma, tournant avec de moins en moins de moyens. Il y a là véritablement quelque chose de tragique, parce que pour lui, le cinéma, dont il pouvait parfois parler avec légèreté, était bien cet art total où chaque détail comptait, où chaque élément comptait, où l'intention n'était qu'un élément au milieu de tous les autres. Et lire un film de Welles et le sentir dans sa complexité, c'est vraiment l'entendre et le voir tel que Welles l'a voulu, ce qui n'est le cas que pour quelques-uns de ses films.
J'ai joué, vous savez, beaucoup de rôles de sale type. Je déteste Harry Lime, ce petit voyou de marché noir, tous ces gens horribles que j'ai interprétés. Mais ce ne sont pas des petits, parce que je suis un acteur pour grands personnages. Vous savez, dans le vieux théâtre français classique, il y avait toujours les acteurs qui jouaient les rois et ceux qui ne les jouaient pas. Je suis de ceux qui jouent les rois. Il le faut, à cause de ma personnalité. Donc naturellement, je joue toujours des rôles de chef, de gens qui ont une ampleur extraordinaire. Je dois toujours être « bigger than life », plus grand que nature. C'est un défaut dans ma nature. Il ne faut pas croire qu'il y a quelque chose d'ambigu dans mes interprétations. C'est ma personnalité qui en est responsable, non mes intentions. Vous reconnaissez la musique que nous sommes en train d'écouter, Benoît Peters. C'est la bande originale de la série Breaking Bad. Difficile, quand on parle des personnages incarnés par Welles, des personnages maléfiques, de ne pas penser à sans doute ses héritiers. Et la série Breaking Bad en fait partie, le texte que je viens de lire, donc le témoignage même d'Orson Welles, semble nous y conduire.
Oui, et avant Breaking Bad, Les Sopranos, et le personnage extraordinaire de Tony Soprano, dans ses fragilités, dans sa tentative d'incarner un semblant de moralité à l'intérieur d'un monde qu'il interdit, alors que le personnage de Breaking Bad, qui au contraire partait d'une moralité bien constituée, va là défaire, jusqu'à la piétiner, jusqu'à l'anéantir totalement. Donc deux figures croisées, deux figures symétriques. Peut-on être un mafieux suffisamment bon ? Peut-on, quand on est un chimiste pauvre, aller jusqu'au bout de l'abjection pour sauver sa peau, pour tenter littéralement de sauver sa peau ? Tout ça, c'est des thèmes que les séries illustrent aujourd'hui avec une liberté que Welles aurait enviée. Je pense qu'il aurait aimé aussi cette idée d'épaissir le personnage par la durée. Mais il y a une histoire à laquelle je pensais, une histoire très très célèbre à laquelle je pensais en vous entendant lire ces quelques phrases de Welles. C'est la fameuse histoire qu'il rapporte dans Mr. Arkadine, celle du scorpion, la fable de la grenouille et du scorpion. Une grenouille est au bord d'une rivière et le scorpion lui dit « Me ferais-tu traverser sur ton dos cette rivière ?» Et la grenouille dit « Mais tu me crois vraiment stupide. Si je te fais traverser la rivière, tu vas me piquer et je mourrai. » Le scorpion dit « Mais tu n'es pas logique. Si je te pique, tu te noies et je me noie avec toi. » Alors la grenouille se laisse convaincre et emporte le scorpion sur son dos. Mais au milieu de la rivière, elle sent une piqûre affreuse. Elle dit « Mais ce n'est pas logique. Nous nous noyons. » Et le scorpion lui répond « It's my character ». Welles termine la scène, il la raconte infiniment mieux que moi, il termine la scène en levant son verre et dit « Let's drink to character ». Et ce mot « character », on sait à quel point il est compliqué à traduire, il est le caractère, il est le personnage, il est la personnalité, le tempérament. Au fond, c'est moi, c'est tout moi. Le scorpion, c'est tout lui. Et Welles, c'est tout lui. Et c'est tout lui dans sa fascination pour le pouvoir, dans sa fascination pour le mal, et en même temps dans sa condamnation explicite pour le mal et le pouvoir. Parce que finalement, quelle figure extraordinaire du pouvoir, que celle du réalisateur de films, que celle du démiurge qu'il a été, construisant des mondes, faisant monter ses carrières, ses princes, ses milliardaires, ses patrons de presse. Toute cette force qui est là, elle est profondément lui, et en même temps, elle est profondément une part qu'il déteste en lui, mais qu'il aime détester. Et finalement, par rapport à tous ceux qui ont connu Welles, qui l'ont côtoyé, et je pense que c'était un ami, et un mari ou un amant difficile, compliqué. Rita Hayworth disait, elle a été sa femme, il n'est pas facile tous les jours de vivre avec un génie. Il était encombrant et terrible, et en même temps, c'est avec tout ça que nous l'aimons, comme une projection bigger than life de tout ce que nous sommes, ou de tout ce que nous fantasmons d'être, ou de tout ce que nous n'osons pas être. Cette part en chacun de nous, de la fascination pour le mal fait de nous les spectateurs éblouis de Breaking Bad ou des Sopranos, alors que nous ne serions pas très heureux de rencontrer ces personnages. Là, on retrouve quand même une dimension de catharsis dont on a tous besoin. Va-t-il aller jusque-là ? Ou bien, mais lui qui est si mauvais, comment peut-il être à cet instant un bon mari, un bon père de famille, un ami fidèle ? Comment ces complexités se croisent ? Comment, au fond, il y a bien sûr le par-delà, le bien et le mal, mais comment peut-on aller aussi loin dans le mal, à défaut de pouvoir aller aussi loin dans le bien ? Deux extrêmes qui sont très difficiles et qui nous fascinent, les vies de saints et les vies abjectes, les vies des hommes infâmes, comme les nommait Foucault. Je pense que c'est des pôles de fascination pour nous et que la fiction fait ça. On est aujourd'hui dans une période d'ailleurs d'intense remoralisation. L'affaire Weinstein et bien d'autres choses jettent comme un interdit sur la représentation.
Et de manière beaucoup plus concrète et moins dramatique, le souhait du gouvernement de ne plus subventionner les films français qui fera apparaître
La cigarette comme...
Le mal absolu.
Oui, la forme
absurde. Non, la pas
forme
que la cigarette
absurde,
ne tue pas,
la forme,
c'est pas la question.
La forme absurde de la représentation du mal. Que fera-t-on des meurtres ? Que fera-t-on des perversions, des enlèvements et de toutes les catastrophes naturelles ou humaines ? Et c'est là où Wells vient quand même nous rappeler, oui, que soif du mal il y a en nous, en chaque spectateur, et fascination, et peut-être possibilité de s'en délivrer, de s'en débarrasser à coup de fiction.
Et que l'art ne doit pas être le porte-parole de la morale.
Voilà, alors Wells a subi tous les ennuis du monde en 58 en faisant ce film qui ne sortait pas, celui qui a fait sélectionner le film à l'exposition universelle de Bruxelles en 58, où il a obtenu le grand prix, l'homme de la société de production qui a fait ça a été viré instantanément. C'est vous dire la haine que les studios portaient à ce film. Eh bien... Il serait triste qu'aujourd'hui on en revienne aux mêmes œillères morales et aux mêmes censures implicites sous prétexte de vertu et d'une vertu hypocrite et fallacieuse.
Comme quoi on n'a pas forcément fait de progrès en morale. On va se quitter avec la fin, la toute fin de La soif du mal, puisque nous avons commencé avec l'ouverture de ce film. On en avait parlé, on vous l'a un peu promis, cette fin, parce qu'on entend les derniers mots de Tania, donc je le rappelle, Marlène Dietrich, qui assiste au corps énorme de Quinlan qui est tombé dans l'eau.
Plus que dans l'eau, dans la boue, dans
le pétrole. Alors comme il fait nuit, on ne voit pas trop, mais c'est vrai que c'est un liquide visqueux.
Il tombe vraiment dans le noir, dans une masse visqueuse, exactement comme Harry Lime finissait dans les égouts de Vienne.
C'est vrai. Et ben voici ses derniers mots.
His famous intuition was right after all. He framed that Mexican kid Sanchez, but he didn't even need to. The kid confessed about that bomb. So, turns out Quinlan was right after all.
Isn't somebody going to come and take him away?
Yeah, in just a few minutes. You really liked him, didn't you?
The cop did. The one who killed him. He loved him.
Well, Hank was a great detective, all right.
And a lousy cop.
Is that all you have to say for him?
He was some kind of a man. What does it matter what you say about people?
Goodbye, Tana.
Adios.
Tout se trouve dans cette dernière minute de film. On retrouve l'air du pianola qu'il avait déjà accompagné lors de sa première visite chez Tania. En deux mots, pour traduire, hein, on dit bien sa fameuse intuition, parce qu'il disait tout le long du film qu'il fonctionnait avec intuition. C'est sa jambe qui le renseignait sur le vrai, enfin qui était comme une espèce.
La jambe qui avait pris une balle.
Voilà, la jambe qui avait pris une balle, qui selon la manière dont elle se faisait, dont elle s'agitait, lui renseignait sur sans doute le coupable à chercher. Donc son intuition fameuse était vraie après tout. Il avait sans doute raison, et ce à quoi l'homme lui dit mais vous l'aimiez beaucoup, et elle dit mais celui qui l'aimait vraiment, c'est le flic qui l'a tué. Donc là on est en pleine ambiguïté aussi, c'est celui qui l'a tué qui en fait l'aimait beaucoup, ce qui est vrai. Et avec cette phrase, c'était un très bon détective mais un mauvais flic. A good detective with a lousy cop. La distinction entre les deux aussi est pleine de nuances. Et enfin, voilà, it was some kind of a man. C'était un sacré type, certain type de personnage. Mais enfin, et cette dernière phrase, est finalement, est-ce que ce qu'on dit des gens importe vraiment ?
Et le some kind of a man qui était en même temps quelque chose comme un homme. À travers tout ça, c'est-à-dire à travers ses intuitions, à travers la fabrication des preuves, à travers les épreuves les trahisons, la trahison de son ami le plus cher, à travers Vargas qui observe tout ça et qui le regarde se faire abattre et se noyer comme un petit point, comme ces petits points dont parlait Harry Lime, on est là dans un comble d'ambiguïté et le spectateur sort du film avec tendresse et malaise, avec la présence exceptionnelle de Marlène Dietrich, parce qu'au fond, ce dont on n'a pas eu le temps de parler, mais ce qui peut-être devrait être dit comme l'essentiel, c'est la place très particulière des femmes dans ce cinéma de combat d'hommes.
Ah,
de combat d'hommes du bien et de combat d'hommes du mal.
Du mal.
Eh bien, la femme, que ce soit dans Le Troisième Homme, la femme qui court à sa perte, qui va être livrée aux Russes, rendue au secteur russe, parce qu'elle n'a pas trahi Harry Lime, tout en sachant tout sur lui, c'est l'amante abandonnée qui ne cédera à rien, c'est Marlène Dietrich qui, d'une certaine façon, assiste à ces combats de coq, mais garde son idée de la fragilité de l'humanité, de l'impossibilité de trancher, de l'impossibilité de juger. Et vous pourriez retrouver cette figure aussi à la fin de Mr. Arkadine, avec la fille d'Arkadine qui a sauvé son prétendant, causant la mort de son père, et qui balance entre les deux, ne sachant pas s'il était du côté du bien ou du mal. Et je pense que cette question-là, du personnage féminin comme se situant au-delà de cet affrontement manichéen, c'est probablement une clé de lecture intéressante. Les femmes occupent moins de place, occupent moins de temps dans les films de Wells, mais on pourrait, dans La soif du mal, revenir longuement sur le personnage de Janet Leigh, la femme de Vargas, cette abandonnée, cette traumatisée, dont personne ne se soucie et qui erre là. Retrouvera-t-elle son mari ou sera-t-elle, comme Brigitte Bardot dans Le Mépris, condamnée à abandonner celui qu'elle vient à peine d'épouser?
L'opacité du mal et la détermination de la femme. Un grand merci à vous, Benoît Peters, d'être venu nous parler d'Orson Welles aujourd'hui. Regardez, chers auditeurs, La soif du mal, Le Troisième Homme, Monsieur Arkadine, dont on a parlé aujourd'hui. Et pour préparer l'émission de demain, regardez les Shakespeare adaptés par Orson Welles à l'écran, Macbeth, Falstaff et Othello. Like something that seeks its level, I wanna go to the devil, wanna be evil. I wanna spit tax. I wanna be evil and cheat at jacks. I wanna be wicked. I wanna tell lies. I wanna be mean and throw mud pies. I want to wake up in the morning with that dark brown taste. I wanna see some dissipation in my face. I wanna be evil. I wanna be mad. But more than that, I wanna be bad. I wanna be evil and trump an ace, just to see my partner's face. I wanna be nasty. I wanna be cruel. I wanna be daring. I wanna shoot pool. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philo de Géraldine Mosselin-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Grâce à vous, on renoue avec l'actualité, enfin non pas qu'Orson Welles soit inactuel, mais enfin quand même, on revient au 21e siècle, vous apportez des nouvelles?
Des nouvelles du soin, soin, le care, vous savez ce concept qui avait pris de l'ampleur et eu beaucoup d'écho il y a quelques années, rappelez-vous, c'était quand Martine Aubry avait voulu en faire un cheval de bataille politique. Moins médiatisé aujourd'hui, il n'est pour autant pas oublié des recherches et études philosophiques. En témoignent les trois livres qui viennent de paraître. Comment le soin comme concept est-il aujourd'hui travaillé? Sous quelle forme? Avec quelles questions et quels enjeux? Comment les philosophes se donnent-ils aujourd'hui les moyens de soigner le soin et par la même occasion de nous soigner et de faire encore de la philosophie cette grande thérapeutique?
Coucou, mes loulous.
Tiens, Nicolas, bois.
Non.
Non. Bois, je te dis.
C'est trop chaud.
Il faut. C'est pour te faire plaisir, tu sais.
Que se passe-t-il?
Oh, ça va pas fort, Nours.
Oui, mais dis-moi, tu n'as pas la grippe?
Non, j'ai pris froid cette nuit.
Comment ça?
Il s'est endormi par terre, sous la fenêtre.
Mais ça vous fait rire, Adèle.
Oui, c'est la première fois que j'entends ça sur France Culture.
Oui, mais Nicolas attrape froid. Le froid nous rend-il malade? Peut-on vraiment attraper froid? C'est donc ces questions que l'on se pose à chaque hiver. Les voici posées ici avec ce premier ouvrage qui vient de paraître aux éditions Hermann. Et cet ouvrage, eh bien, il tombe à pic, il est réconfortant et il réchauffe. C'est La petite philosophie du rhume ou le remède pour ne plus jamais attraper froid, écrit par Maëlle Lemoine. Alors Maëlle Lemoine, il n'est pas médecin, il est philosophe. Spécialisé dans la philosophie des sciences médicales, il n'est pas là pour dire ce qui se passe scientifiquement avec le froid, ce qui est vrai ou pas, mais pour interroger plutôt avec humour et légèreté cette idée que l'on a du froid et de ses liens de causalité, qu'ils soient supposés, crus ou avérés avec le rhume. Car là, eh bien, le problème du rhume, que l'on peut étendre à toute maladie, à la santé et aux soins, ils sont moins souvent pétris de connaissances et de sciences que de croyances et de doutes. Ils sont moins souvent l'objet d'une méthode et d'une stratégie très protocolaire qu'en fait que de tâtonnements, d'hésitations et d'incertitudes.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire justement s'il n'y a pas de connaissances et que des hésitations?
Eh bien déjà, on peut se poser des questions, et les premières, c'est celles-ci. Quelles sont ainsi nos manières de penser et d'agir, croyances, connaissances, doutes et certitudes à propos de la maladie? Et comment celles-ci sont-elles concrètement modifiées quand surgit la maladie, quand notre finalité c'est désormais la santé, et qu'elles ont à prendre la forme du soin? Si nos manières n'ont rien de scientifique, comment toutefois appréhender, apprivoiser ce qui ne l'est pas, telle la maladie ou encore le soin auquel nous sommes si peu habitués? Bien sûr, ce point, il faut évoquer tous les projets d'édition sur le soin, et je citerai à cet égard au moins deux collections. D'abord, la géniale Question de soins au PUF, dans laquelle vient de paraître Chronique de la maladie chronique de Todd Meyers, soit le questionnement au quotidien de l'articulation dans sa vie ordinaire d'un phénomène qui n'a rien d'ordinaire, à partir du récit singulier et passionnant sur 12 ans d'une femme touchée de maladie chronique. Et puis je citerai la collection Perspective du Caire aux éditions de l'ENS, dans laquelle vient de paraître Lire avec soin d'Éric Méchoulan, qui s'ouvre sur cette citation de Jean-Luc Godard.
Père, quelle est la bonne méthode pour savoir si quelqu'un est fréquentable?
Il faut lui demander « Qu'avez-vous lu ?» Et s'il te répond « Homère, Shakespeare, Balzac, l'homme n'est pas fréquentable. » Par contre, s'il te répond « Qu'entendez-vous par « lire » ?» Alors tous les espoirs te sont permis.
C'est dans le film « Liberté et patrie » de Jean-Luc Godard que l'on peut entendre ça et permet de nous poser cette question. Lire permet-il de soigner? Lire avec soin, c'est-à-dire attentivement, patiemment, revient-il à prendre soin de quelqu'un? Mais de qui et comment? Si écouter, ouvrir l'œil et l'oreille à toute demande peut être vu comme une manière de penser et d'agir avec soin, comment lire peut-il relever du soin? Eh bien, c'est la thèse de ce livre d'Éric Méchoulan. Lire, ce n'est pas seulement décoder des signes, mais c'est lier. Lire, c'est lier, nous dit-il, c'est-à-dire savoir déceler dans un texte, mais aussi dans une situation ou chez une personne, les relations qui s'y jouent et qui peuvent en découler, que l'on peut construire, tisser des uns aux autres grâce à eux, avec eux. Comment donc apprivoiser ce qui ne l'est pas, comme la maladie qui surgit dans le quotidien et qu'on ne connaît pas? Et comment la philosophie peut-elle nous y aider? Comment peut-elle être ce remède sans pour autant être médicale? Eh bien la réponse est là aussi en travaillant sur le soin, certes, mais surtout en décrivant avec soin toutes ces expériences vitales.
Merci Géraldine, je ne sais pas si lire guérit du rhume, mais en tout cas ça rend l'expérience moins désagréable. Alors dites-nous, quels ouvrages vous nous conseillez?
De lire justement, ouais. Donc lire avec soin, c'est d'Éric Méchoulan, c'est donc aux éditions de l'ENS, La petite philosophie du rhume de Maëlle Lemoine, c'est aux éditions Hermann. Et enfin, Chronique de la maladie chronique de Todd Meyers, c'est aux éditions PUF.
Merci Géraldine, et surtout, prenez soin de vous. Un grand merci à David Pargamin qui a préparé cette émission, ainsi que Louis Servet, Claire Perriman-Holt, Marianne Chassor, Géraldine Mosnassavoie bien sûr, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Georges Claes et Chantal Broman qui sont à la lecture des textes cette semaine également, et Élise Leu à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Orson Welles. Demain, je recevrai Jean-Loup Bourget pour vous parler des films shakespeariens de Welles, Othello, Macbeth et Falstaff. D'ici là, rendez-vous sur nos pages Facebook et Twitter où nous attendons vos remarques et commentaires, et sur le site internet des Chemins de la Philosophie où vous trouverez toutes les informations cinématographiques et bibliographiques concernant l'émission du jour. Vous pourrez également la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.